Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans notre deuxième édition, celle, eh bien, que vous pouvez suivre à l'issue du début de la Coupe du Monde en France. Et elle commence, cette Coupe du Monde, par une large victoire des Bleus, 4-0 pour l'équipe facile vainqueur des Sud-Coréennes qui ont eu du mal à exister sur la pelouse du Parc des Princes de Paris. Les filles de Corinne Diacre ont donc bien commencé la compétition qui se déroule en France. Une huitième Coupe du Monde qui verra dimanche entrer en jeu les Italiennes. Matteo Cioffi nous présentera cette équipe de la Nationale et les filles, donc la féminine, elle qui participe à une Coupe du Monde. Turquie-France, samedi soir, pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Les Bleus de Didier Deschamps, les Bleus sans eux cette fois, rêvent de vacances, mais il leur reste deux matchs, et notamment, eh bien, ce match en Turquie. Ça sera chaud, l'ambiance, et Olivier Pron nous racontera tout cela. Dans le studio ce soir, avec moi, Marc Libra est là. Bonsoir Marc.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et puis Naïm Moniol.
Salut,
bonsoir
Annie,
Naïm.
Salut à tous.
Alors nos fidèles consultants qui là sont là pour venir nous parler de football féminin, n'est-ce pas ? Radio Foot, c'est parti.
Amandine Henry qui récupère son bon ballon. Le 1-2 avec Kenny. Amandine Henry à nouveau sur la surface de réparation. Le bon ballon. Ouais, et l'ouverture du score. Le signe de Julie Le Sommer.
Onième corner pour les Françaises.
Allez, on s'en passe du côté des Françaises.
Côté droit, dans la surface de réparation. Oh, le but ! Oh, la reprise de Wendy Renard ! La tête piquée vers le sol. C'est superbement ajusté. 2-0 pour les Françaises. La tête encore de Renard ! Et le but ! Oh, le troisième but de l'équipe de France, c'est le doublé de Wendy Renard qui l'a cru.
Juste avant le retour au vestiaire pour l'équipe de France, 3-0. Amandine Henry, attention, peut-être une possibilité avec Valérie Gauvin qui est partie. Wow, Thomas,
oh, et
qui
va.
Oh, oh, le but, magnifique but. Oh, superbe but signé de la capitaine Amandine Henry. 4-0 pour les Françaises.
Victoire 4-0 de l'équipe de France ici au Stade de France face à la Corée du Sud.
Un beau commencement donc pour l'équipe de France et elles ont le sourire, un grand sourire, les Bleus en quittant le terrain il y a quelques instants et en ce moment même. Les filles de l'équipe de France donc qui sont bien entrées dans la compétition avec une victoire très nette, 4-0. Ça sera sûrement bon pour le goal average, on verra ça. Mmh. Filons tout de suite au Parc des Princes où se trouve Eric Chorin. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir Annie, bonsoir à tous. Au Parc des Princes, oui, pas au Stade de France, comme je l'ai dit, remporté par mon élan à la fin du match, oui, sans doute.
Alors, Marc Libra, vous direz ce soir, vous êtes au Parc des Princesses.
C'est vrai, c'est joli, c'est très joli comme formule.
Hein,
oui.
Elles ont bien laissé leur empreinte sur la pelouse du PSG, là. Hein.
Ah oui, non, c'est clair. En plus, c'est les Lyonnaises qui ont marqué, là, 4 buts.
Hein,
non, effectivement, très, 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 très belle prestation. Alors Eric, quand même.
Oui, alors donnez-nous votre analyse et votre opinion sur ce match. Une belle performance, effectivement, un 4-0, mais en plus, il faut dire que les Coréennes ont quand même bien aidé les Françaises pour ce score.
Oui, on les a vues un peu absentes, effectivement, notamment sur les coups de pied arrêtés, un peu absentes au marquage sur Wendy Renard. Elles ont eu aussi le temps de, Amandine Henry, à la fin du match, d'ajuster sa frappe enroulée. Après, il y a eu de belles combinaisons quand même de jeu. Elles ont attaqué vraiment ce match comme il le fallait, hein, les Françaises, avec une frappe enroulée d'Amandine Henry dès la deuxième minute. Il y a eu aussi cette très belle combinaison, comme elles savent le faire, un très très beau 1-2 entre Henry et Majri et ce centre en retrait, où on a vu plus de Françaises presque que de Coréennes dans la surface de réparation, et c'est Eugénie Le Sommer qui a marqué. Puis après, on les a vus très basses, hein, les Coréennes, pour défendre. C'est là qu'en deuxième mi-temps, on a vu que les Françaises avaient un peu moins de solutions quand elles avaient moins de vitesse dans le jeu, moins de vitesse d'exécution, un peu moins de jus. Mais sinon, elles ont été. Il n'y a eu aucun danger. Une frappe cadrée contre, je crois, 7 pour les Françaises, 21 frappes françaises. Et puis de grosses lacunes physiques face aux tricolores, notamment dans la surface de réparation. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Après, il y a d'autres choses à dire, j'imagine. Hein.
Oui, juste une chose, le score aurait même pu être plus lourd. On a vu un très joli but refusé grâce ou à cause de la VAR, n'est-ce pas, de cet œil, disons mécanique, de cet œil mécanique de la vidéo. En tout cas, un très beau geste de la part de la défenseur Mbok.
Bah, toute l'action a été intéressante puisqu'il y a eu ce corner qui a été joué entre Gaëtan Tinet, Khadidia Toudiani, la déviation de Le Sommer, la tête de Renard pour cette reprise de volée. Moi je disais à l'équerre de Mbok, je sais pas comment dirait Marc Libra, mais ce but refusé parce qu'il y avait une jambe qui dépassait
des
finalement.
Doigts, doigts de pied.
Les doigts de pied qui dépassaient, on ne les voyait pas nous de notre côté parce qu'il y avait vraiment des Coréennes alignées sur la même ligne. On ne voyait pas cette jambe qui dépassait ou ces pieds qui dépassaient. Mais quel beau but de Greenbock, qui a pris beaucoup de confiance dans cette équipe qui est une joueuse très très importante. Et toutes ces Lyonnaises qui étaient au rendez-vous, 7 sur la pelouse ce soir, alors que 5 d'entre elles ont eu quelques petits pépins physiques depuis leur finale de Ligue des Champions. Mais bon, bah, visiblement le fait qu'elles aient été ménagées et leur préparation physique a été la bonne pour arriver à ce match ce soir, même si 2 ont été ménagés en fin de match.
Alors demandons à nos amis leur avis et comment ils ont vu ce match. Marc Libra, vous, l'ancien joueur.
Oui.
Comment avez-vous vu la prestation des filles?
C'est le match parfait pour entrer dans une compétition comme ça. C'est-à-dire que, sans être très méchant, c'est vraiment un bon match d'entraînement face à une équipe qui, malheureusement, au niveau de taille-puissance, ils ne pouvaient pas rivaliser en aucun cas. On voit le but de Wendy Renard, la plupart du temps, là, elle n'a pas à forcer. Très très bon match d'entrer dans une compétition comme ça. Ça permet d'avoir des effusions de joie parce que la plupart des filles, c'est la première fois qu'elles jouent devant plus de 40 000 personnes. Ça, c'est très important. Ce sont des gestes forts. On avait aussi Torrent qui pleure sur l'hymne français. Je trouve ça magnifique et très important parce qu'il y a toute une symbolique derrière. Mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas se dire elles étaient moyennes ou pas moyennes, ou la France aurait pu en mettre 7 ou 8. C'est vrai, peut-être, mais en tout cas, le contrat est rempli. Il y avait une charge pour moi émotionnelle très importante pour ces filles qui aurait pu être perturbante. Et alors, c'est vrai que les 5 suivent, et puis finalement, ça a déroulé et ça s'est bien passé.
Oui, on les a vues en rentrée sur la pelouse. On en avait parlé, Eric. Elles n'avaient jamais joué dans une enceinte. Sauf peut-être, on pensait à Amandine Henry qui a joué aux États-Unis.
Oui, qui a pu, sur les play-offs, peut-être faire quelque chose.
Peut-être, mais sinon, c'est vrai que tous ces gens, mais c'était une belle fête. La partie, comment est lancée la compétition, le spectacle d'entrée, et ensuite, tout était fait pour qu'elles se sentent bien.
Tout était réuni avec ce public qui était vraiment, qui avait envie de les voir jouer, quoi, et qui était là pour beaucoup de jeunesse dans ce public, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de familles qui étaient venues ici au parc pour les voir jouer. Alors elles avaient vu un peu tout au long de leur préparation des stades de province se remplir, mais là c'était pas la même dimension quand même, hein. Et puis en plus au parc on est quand même près du terrain, c'est pas le Stade de France et sa froideur des fois de temps en temps. Là on le sent, le public, hein, avec vous. Et les Françaises, elles l'ont vraiment ressenti, visiblement. Elles ont répondu présent. On vous avait repassé l'interview de Gaëtan Tinet, hein, qui évoquait en conférence de presse ce week-end, justement, le fait qu'elle s'y était préparée un peu à ce rendez-vous. Pourtant, c'est l'une des aînées, à 33 ans, mais pour elle, c'est peut-être, la dernière occasion de vivre un événement. En tout cas, c'est l'événement le plus fort qu'elle s'apprêtait à vivre. La joueuse du Paris Football Club, c'était Juvisy avant. Donc, elle avait réussi à venir voir des matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Elle nous avait expliqué qu'elle s'était mise le plus près possible du couloir d'entrée pour vivre un peu le ressenti qu'on a quand on est un joueur, qu'on foule la pelouse du parc. Et là je crois qu'elles ont réussi à gérer cette émotion et à répondre présent sur le terrain, et effectivement c'est une entrée matière parfaite.
Et je voudrais juste rajouter, outre la victoire, il y a beaucoup de Français qui ont découvert le football féminin aujourd'hui. Faut pas se leurrer. Nous, spécialistes, on le suit.
Mais je t'assure.
Non, Marc, non.
Ne dis pas non. Naïm, je finis, s'il te plaît. Je finis.
Aujourd'hui autour de la Ligue des Champions.
Mes parents qui habitent dans un village où ils habitent, la plupart des gens n'ont pas le câble, ils ont rien. C'est la première fois qu'on voit des femmes sur TF1 tranquillement. Alors, des fois, tu vois sur TMC, tu peux pas. Il y a plein de gens aujourd'hui qui n'étaient pas au courant, forcément. Il faut oublier Paris.
Des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait Coupe du Monde.
Je ne parle que de ça depuis trois semaines, par rapport à la Coupe du Monde,
de voir
qui
l'équipe
regardé
de France.
Un match.
Donc ce qu'elles ont gagné aussi, c'est que la plupart des gens ont découvert le football féminin, un football engagé, total. Certes, il y avait une différence abyssale, mais c'est pas grave. Elles ont vu des filles conquérantes qui se battent et qui ont envie de, voilà, de se régaler. Et on a vu la joie à la fin. Je trouve que ça fait énormément de bien. Et il y a plein de gens qui ont découvert aujourd'hui, je suis désolé de te le dire, le football féminin.
Et en plus, quand on parle des termes et de l'évolution des termes, eh bien, il y a eu une femme du match, hein, Eric, ce soir.
Oui.
Et la femme du match, on l'a vu à l'instant sur les images qu'on peut voir encore ici sur notre écran des diffuseurs.
C'est la plus grande.
Voilà.
La plus grande.
Exactement. Oui, hein. L'auteur du doublé.
Wendy Renard. Bah oui, c'est vrai que c'est pas si fréquent quand même une joueuse de la défense centrale qui met un doublé sur un match. Elle a joué aussi, elle a rempli son rôle aussi en défense centrale. C'est un bel hommage qui lui a été rendu aussi à cette occasion. Elle a participé. Elle a fait grandement comme toutes les joueuses. On a vu effectivement beaucoup d'émotions par rapport à la découverte du football féminin. Je pense quand même que c'est quand même un match vraiment plein. Souvent on n'était pas forcément convaincus des fois par la qualité de jeu. Moi, c'est le deuxième match de foot féminin que je vois de très grande qualité à la suite, après la finale de la Ligue des Champions des Lyonnaises face aux Barcelonaises. Après aussi une très belle première mi-temps. Alors, les plus beaux buts avaient été marqués par Ada Gerberg. Les autres, les Françaises, n'étaient pas forcément sur le coup systématiquement, même si Amel Majri avait offert l'une des passes décisives. Mais ça fait deux matchs pleins que j'ai l'occasion de voir, même si effectivement, avec des scores pareils, 3-4 buts dès la première période, la deuxième mi-temps est un peu moins emballante. C'est plus une mi-temps de gestion, mais une grande qualité de jeu quand même. Je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui ne pensaient pas que ça pouvait jouer à ce niveau-là, l'opposition sud-coréenne n'était pas tout à fait à la hauteur, évidemment, de cette équipe de France.
Je le pense aussi. Naïm Moniol, parce qu'il y a un petit sourire en coin de Naïm Moniol, vous avez bien compris.
Il est méchant, il n'aime pas le foot féminin. C'est fou, ça.
Non, pas du tout. Naïm, et si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez regardé et que vous l'appréciez. Naïm, comment vous avez vu, vous, ce premier match des Bleus?
Eric a bien résumé la chose. La Corée n'était pas au niveau d'une Coupe du Monde, donc c'est le parfait... Parfaite entame. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que cette compétition, sur les 3-4 dernières semaines, et même plus en amont, elle a pris une dimension plus politique que sportive. Et aujourd'hui, on attend des femmes qu'elles rivalisent avec les hommes et pas qu'elles fassent du football féminin. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu ridicule, tout ce battage autour. Elles ne sont pas tombées dans le piège de l'émotion. Je sais que Corinne Diacre faisait très attention à ça. Elles ont eu 10 premières minutes fabuleuses où elles ont mis un gros pressing, où elles ont pressé, où elles ont fait mal. Elles ont marqué un but. Derrière, elles ont géré. Parce que c'est pas ce match-là le plus compliqué. Il y aura la Norvège sur la poule et puis plus tard les matchs plus importants.
Le Nigeria aussi.
Donc voilà, le Nigeria. Donc elles ont fait ce qu'il y avait à faire. Très bien. Moi, je remarque un truc. C'est que c'est les cadres qui ont marqué, c'est les cadres qui ont brillé.
C'est vrai.
Tini a fait deux passes décisives. Renard a mis un doublé.
C'est l'OL.
Le sommaire a mis son 75e but. Amandine Harry, la nouvelle capitaine, a été au top. Je ne dis pas que les jeunes n'ont pas été au niveau. La Cascarino a fait une très bonne première mi-temps sur son côté. Mais les cadres ont été à leur niveau.
Et justement, on va l'écouter, Amandine Harry, au micro de nos confrères de TF1. Elle répond justement aux questions et évoque cette victoire.
Je pense qu'on ne pouvait pas mieux débuter cette Coupe du Monde. On en avait tant parlé de ce premier match avec beaucoup d'émotions. Et je pense qu'on l'a pris par le bon bout. On a marqué d'entrée, donc ça a facilité les choses. Et puis je pense qu'on ne peut pas rêver mieux ce soir. Il y a eu beaucoup d'émotions, surtout au niveau de la Marseillaise. Franchement, les larmes n'étaient pas loin, mais ça va, on s'est remobilisé. On était concentré à la performance. Après, c'est le premier match. On ne va pas s'enflammer parce que la route est encore longue.
La route est encore longue, elles ont donc conscience qu'elles ont bien commencé, mais qu'il va encore falloir tenir.
Marc. Non, mais pour revenir sur ce que dit Naïm, il a entièrement raison, parce que ce matin, moi, à Paris, vous savez, j'aime bien me nourrir de ce qui se passe dans la rue, en bas de chez moi et tout. Et la plupart des gens nous annoncent que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Il faut juste rappeler que le meilleur résultat de l'équipe de France, c'est en 2011. Alors, Corinne Diacre était à l'époque adjoint de Bruno Bini, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
C'est ça, mais l'équipe de France, c'est la coupe She Believes Cups en 2017. C'est une coupe que participent, enfin, les Américains font ça, où il y a l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les États-Unis. Elles l'ont gagné, et après, elles ont gagné la coupe de le tournoi de Chypre 2012-2014. Donc, si vous voulez... De suite de dire qu'elles sont capables, parce que on nous a annoncé quand le président Macron est allé, mais vous devez gagner. Le gars qui dit, mais elles doivent aller dans le dernier carré. Le seul truc intéressant, moi, si elles finissent, attention, j'aimerais pas ça, mais si elles finissent troisième, elles sont qualifiées pour les prochaines. Donc, je me dis
pour
que
le prochain jeu, JO,
exact, prochain JO, donc ça c'est intéressant. Après, de dire qu'elles vont dans le dernier carré, leur mettre une pression supplémentaire, alors certes.
Mais ça après, c'est normal, Marc. Elles organisent la compétition, dire vous devez être au minimum en demi-finale.
Les hommes avaient vécu avant. Donc, il faut, comme tu dis, t'as raison, il faut arrêter de les comparer. Là, on nous a fait le parallèle. Il y avait du vent à Marseille en 98, c'est ceci, c'est cela. Laissez-les tranquilles. On se régale, laissez-les tranquilles. Et arrêtons de raconter des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens, mais ils vont gagner la Coupe du Monde.
Oui, mais c'est, tu sais, mais parce que les médias t'expliquent ça depuis un mois, deux mois, t'as des parallèles avec les coupes de cheveux, avec les chaussures, avec les machins. Qu'on leur donne un objectif. Ça, c'est normal. Après tout, c'est la compétition. Vous organisez, vous faites partie des deux, trois favoris. Vous êtes à domicile, vous devez être dans le dernier carré. Ça, c'est un objectif sportif. Ça, à la rigueur, c'est pas comparé aux hommes. Ce qui est plus dérangeant, c'est quand, on essaye de comparer à la Coupe du Monde 2018, quand on fait des parallèles entre Mbappé et Gauvin, quand on fait avec Wendy Renard et Varane. Ça, c'est gênant quand on essaye de faire des liens entre Toudi, France 98 et machin. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule qu'on leur fixe des objectifs sportifs. À la rigueur, c'est une chose normale.
Alors, revenons au match pour une chose. Je crois qu'avec Marc, vous n'êtes pas tout à fait peut-être d'accord. Éric Chorin, vous disiez qu'il y avait beaucoup de Lyonnaises. Hein. Il y en avait 7 finalement, parce qu'au départ, étaient annoncées 6. Et
elles étaient toutes là.
Delphine Cascarino, que personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment une sacrée joueuse sur son couloir.
Elle est toujours comme ça.
Elle était
sur son côté, elle perd fort, elle a peur de rien.
Elle était vraiment très impressionnante. On avait donc 7 Lyonnaises. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas? Marc avait peut-être pas le même avis.
Quand on a une sélection, enfin l'équipe de France, et qu'on a une majorité de joueuses qui jouent dans le même club, on a des ententes parfaites. Un exemple, elles ont toutes marqué les Lyonnaises.
Ben
le problème, c'est qu'il y a des joueuses du PSG. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent à côté, donc il faut faire très attention. Un groupe, c'est très sensible à plein de choses.
Bah, après, Lyon, c'est le meilleur club d'Europe. Hein.
Je suis entièrement d'accord.
À un moment donné, quand tu as le meilleur club d'Europe, tu as les meilleures joueuses.
Tu as le meilleur club, mais il ne faut pas oublier que tu as aussi les meilleures joueuses étrangères qui jouent dans ce club de Lyon aussi. Et qui aident vraiment.
C'est comme si tu disais chez les hommes, mais c'est pas normal, les seuls qui jouent en France, c'est les mecs du PSG.
Je dis juste,
c'est le meilleur club.
En interne, de favoriser une équipe comme l'OL, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le gérer sur toute la compétition.
Ça, c'est autre chose.
Par le passé, en équipe de France, il y avait beaucoup de joueurs de Marseille. Il y avait beaucoup de joueurs de Paris et il y avait des problèmes.
Tu prends l'équipe d'Espagne, tu en as au moins 6 du Barça, tu prends l'équipe d'Anal, t'en as au moins 6. Non, il n'y a pas du Real Madrid. Tu prends t'en as au moins 6 de Wolfsburg en Allemagne, tu vas à Tadilstrom en Norvège, t'en as plein des comme ça. C'est normal que le meilleur club soit pourvoyeur de plusieurs joueurs.
Ah, mais j'ai pas dit que c'est pas normal, j'ai juste qu'il faut pouvoir le gérer à l'interne.
Après, Eric.
Oui, je revenais à la Coupe du Monde 2015 et il y avait un certain nombre de joueuses qui étaient déjà face à la Corée du Sud en huitième de finale, puis ensuite face à l'Allemagne en quart. Et ben, c'était les Lyonnaises. Il y avait déjà Sarah Bouadi, Wendy Renard, il y avait Amandine Henry, il y avait Eugénie Le Sommer, Amel Majri qui était là face à l'Allemagne en quart de finale. C'était déjà des piliers, quoi. Donc ça, on peut pas les retirer de l'équipe. C'est sûr qu'après, il faudra pas que les autres aient l'impression de jouer les utilités, mais c'est pas le cas de Marion Torrent sur le côté droit de la défense. F. Périsset, elle a démontré il y a peu de temps, et Corinne Diacre l'a souligné, qu'elle avait pris des responsabilités et qu'elle était capable de jouer côté droit, côté gauche. Devant, on a Kadidia Toudiani, qui est quand même une chose très très importante pour cet effectif, parce qu'en gros, elle peut occuper tous les postes de l'attaque. Donc c'est quand même pratique, surtout quand on décide, comme l'a fait Corinne Diacre ce soir, de ne pas aligner Valérie Gauvin à la pointe de l'attaque.
Qui était très surprenant.
Parce qu'elle est arrivée deux fois en retard à l'entraînement cette semaine.
Eh ben, c'est une très bonne chose.
Eh ben, elle a été sanctionnée et elle l'a fait rentrer en deuxième période en revanche. Donc voilà, elle arrive à doser un petit peu les choses. Et puis il y a une Gaëtan Tinet qui ne joue pas à l'Olympique Lyonnais, Elise Busaglia non plus, mais c'est des piliers incontournables de l'équipe au milieu de terrain. Après, il y a des joueuses qui aimeraient sans doute avoir un peu plus de temps de jeu, comme Grace Gueyoro qui est rentrée un peu tard, la joueuse de Paris Saint-Germain. Ça, c'est vrai.
C'est très intéressant puisque on a quand même les quatre joueurs. Alors Katoto n'est pas là, elle faisait le quatuor français du PSG, parce que c'est vrai. Quand on met Grace Gueyoro, Kadisian Oudiani et Périssé qui rentrent en fin de match, ces joueuses-là s'entendent à merveille.
Donc, c'est vrai aussi.
Il y a toujours, tu sais, il y a toujours cette guerre, parce qu'on l'a connue à une époque, dans les années 90, où on disait que parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de Marseille en équipe de France, ça a toujours créé des problèmes et ça n'a jamais marché en équipe de France. Il faut le dire, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y avait une petite guerre en interne. Et j'aimerais pas avoir ça. Quand Katoto n'est pas arrivé, qu'on n'a pas prise, Corinne Diacre a ses raisons. Je dis juste que, attention, il y a des joueurs du PSG, c'est le dauphin de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est au-dessus, mais attention, il faut pouvoir préserver son groupe.
C'est une vraie alternative, Marc. Je suis pas sûr qu'il y ait l'antagonisme entre les Lyonnaises et les Parisiennes qu'il y avait avec les Marseillais et les Parisiens dans les années 90.
Pas sûr non plus. Je crois que Corinne Diacre a réussi à créer un esprit de groupe assez fort. Et puis, quand on a vu récemment que Majri, Le Sommer, il fallait les ménager parce qu'elles étaient touchées, on a vu de belles choses, de belles combinaisons, effectivement, entre Périssé et Diani qui avaient été alignées sur le côté gauche. Donc,
elle a pas mal de solutions de remplacement, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi pour elle. Et puis, bah, ce groupe, elle a aligné les 7 parce que ça reste quand même la colonne vertébrale. Et bah, puis, parce que Valérie Gauvin n'y a pas mis du sien à l'entraînement aussi. Donc, du coup, on en a eu 7 au lieu de 6.
On va écouter la femme du match de ce soir. On va écouter Wendy Renard.
Collectivement, on a fait les efforts. On a bien commencé le match. On a mis les ingrédients pour pouvoir gagner. Et quand on voit ce public qui nous a soutenus de la première à la dernière minute, on devait de faire les efforts ce soir et de bien entrer dans cette compétition. Donc c'est chose faite et je suis très content. On est à la maison et on a envie d'aller au bout. Mais on va faire étape par étape. On vient de faire ce match ce soir. On va bien récupérer pour emporter cette compétition. Mais le chemin est encore long et comme j'ai dit, on va procéder par étape.
Eh bien voilà, le message passe. La route est encore longue, nous disait Amandine Henry. Et c'est à peu près ce que dit aussi Wendy Renard.
Elle communique bien. Hein.
Oui, c'est fou. Hein.
En tout cas, elles communiquent. Elles sont là après en zone mixte. Marc, une petite chose encore sur les choix tactiques de Corignac. Vous n'aviez pas l'air très, très d'accord avec
non,
ces choix.
Non, c'est vrai qu'en fin de match...
Face aux Coréennes. Mais
c'est
bon.
Vrai qu'en début de match, j'aurais aimé... Alors c'est vrai que Corignac adore le 4-2-3-1 avec deux joueuses très défensives, avec Renard, Mbok qui se relève parfaitement, avec Henri aussi, c'est la fibre OL, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'attaque, un peu plus de jeu d'entrée et pas mettre qu'une personne devant parce que c'est quand même pas forcément évident.
Quand t'as un bloc qui joue dans les 40 mètres adverses, t'as de la présence. Hein. Oui, regarde où Amandine Henry qui fait la passe décisive sur le premier but où elle se trouve. Regarde où se trouve Henri et justement
tu sais qu'il y a sur l'ensemble du match. Mais quand tu vois déjà l'entrée des joueurs et la différence de taille, poids, puissance, là à ce moment-là, tu dois même pas
réfléchir à ça avant. Sur un match comme ça, le bloc était tellement haut que de toute façon, tu peux même aligner qu'une seule pointe. Tu sais que tu vas avoir 3-4 joueuses dans la surface adverse.
Ouais, moi, j'aurais mis beaucoup plus d'élan devant.
Eric, vous auriez fait autre chose ?
Non, je ne sais pas. On s'est posé la question lors des matchs de préparation. On aurait aimé voir peut-être, surtout les deux derniers face aux équipes asiatiques qui étaient alignées déjà, la Thaïlande et ensuite la Chine. On aurait aimé voir Grace Gaillot un peu plus. Nous, c'est vrai.
C'est un peu pro-parisien ce soir, messieurs.
Non, parce que c'était un petit peu défensif, effectivement, un peu trop face à des équipes.
On est d'accord.
Voilà. Après, là, c'est le match d'ouverture.
On aligne son équipe. Non, mais après, il y a un choix aussi qui est très intelligent de la part de Corinne Diacre. Si tu commences à mettre 2, 3, 4, 5 attaquantes parce que t'empiles les buts, ça va devenir un cirque.
Et
tout le monde va vouloir. Non, mais tout le monde va vouloir faire son cirque.
Mais pas du tout.
Tout le monde va vouloir faire son cirque, marquer son but, faire son exploit personnel.
Ça va
être n'importe quoi. C'est avoir aussi un peu de rigueur et un peu de cadre parce que tu dis, ouais, on est un peu trop défensif. Bah ouais, mais les joueuses, justement, à vocation défensive dans cette équipe, c'est ta capitaine, Amandine Henry, et c'est les cadres. Bissaglia, elle a 160 sélections, peut-être même plus.
Tu peux pas les enlever.
180.
Non, voilà, tu peux pas les sortir.
Eric, prochain rendez-vous avec ces Bleus, ce sera face à la Norvège.
La Norvège dans 5 jours à Nice, oui. Mais la Norvège sans Ada Hegerberg, faut le rappeler.
On y reviendra.
C'est pas tout à fait la même chose. Non, bah là, je pense qu'elles sont là. Les Françaises vont se présenter dans les meilleures dispositions pour affronter ces Norvégiennes. Elles ont battu les Danoises, qui ont un jeu un petit peu similaire récemment, assez largement, 4-0. Même si les Danoises n'étaient pas qualifiées pour la Coupe du Monde, donc du coup, il y avait peut-être un petit peu moins d'enjeux sur ce match. En tout cas, elles ont tout pour attaquer ce match dans les meilleures conditions. Est-ce que comme on le disait, est-ce que effectivement là, Corinne Diacre fera un tout petit peu tourner son effectif? C'est pas impossible malgré tout, parce que il y a eu quand même quelques petits signes de fatigue, je pense.
En tout cas, et le match, le deuxième match de ce groupe avec les autres adversaires, Norvège-Nigeria, ce sera à Reims et ce sera demain soir. Merci beaucoup, Eric Chorin, et bien bonne fin de soirée.
Merci à vous.
Et bye bye. Ne vous envolez pas, parce qu'apparemment il y a beaucoup de vent autour du parc des Princesses.
Ça souffle. Ouais, ça souffle. Chez les Princesses.
Ça souffle. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine de merci Eric. Dans le domaine de ces filles et le groupe C qui entre dans la danse. Alors demain on aura le groupe B évidemment avec ce match entre l'Espagne
et l'Allemagne.
Et ensuite nous aurons
l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, oui. Et ça sera Espagne, si je ne me trompe pas.
C'est Allemagne-Chine.
Allemagne-Chine, demain. Exactement.
Et Nigeria qui joue demain soir.
Demain, qui joue au Havre, donc, et à Rennes. Et puis, effectivement, ce match à Reims. Et nous aurons dimanche, eh bien, le groupe C, avec le match entre le Brésil et la Jamaïque.
Absolument.
Ça sera du côté de Grenoble. Hein. Il y aura du rythme du côté de Grenoble. Et à Valenciennes, eh bien, à Valenciennes, ce sont les filles italiennes qui rentrent en jeu. Ça sera à 13h et elles joueront face à l'Australie. Et justement, nous allons parler de ces Italiennes.
Non è uno sport per chi pensa di fare tutto da solo. Il calcio è il calcio.
C'è un calcio che aspetta solo il tuo tifo. Mondiali di calcio femminile dal 7 giugno su Sky Sport.
Sky Sport d'Italie qui s'intéresse aux filles. Tiens, eh bien, l'Italie aurait ou marque un certain retard par rapport à la France pour ce qui est du football féminin. Et nous allons en parler avec Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Alors Matteo, l'Italie est présente à cette Coupe du Monde. Naïm, vous nous disiez, hein, c'est la première fois depuis 20
ans.
Ouais. Mais au moins, Matteo, ce qu'on peut se dire, c'est que les filles sont là.
Les filles sont là et je peux vous assurer que l'intérêt est en train de monter et ça monte au-delà de tout de manière naturelle car les Italiens ne veulent plus jamais assister à un champion du monde sans leur nationale. On a vécu ça l'année passée, c'était affreux, s'il vous plaît, pas deux fois.
Ouais, donc là, ça sera la nationale est là, mais la nationale est donc ce sont les filles qui viennent défendre les couleurs italiennes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a beaucoup moins de licenciés qu'en France.
Oui, on a les derniers chiffres que j'ai à disposition indiquent 23 000, un peu plus de 23 000 associés à la Fédération italienne de football.
Des licenciés.
Voilà.
En France, on en a 185 000, donc la différence est effectivement. Pourquoi, Matteo ?
Parce qu'on n'a jamais voulu investir sur ce sport. Il faut savoir que le football italien féminin n'a pas encore le statut de discipline professionnelle. Donc les salaires ne sont pas très hauts. Une joueuse de Serie A gagne environ 20 000 euros quand ça va bien. Et voilà, donc il y a pas beaucoup d'argent.
Matteo, c'est moins, je pense.
Un petit peu moins parce qu'en France.
Excuse-moi de te couper. 20 000 euros une joueuse de Serie A
par an.
Par an, pardon.
Désolé.
Alors, vous croyez pas moi.
Non, parce que c'est les big stars en France gagnent à peu près entre 18 et 20 000.
Ouais, c'est pour ça.
J'aurais mis une perruque.
Allez-y, Matteo, continuez.
Donc, oui, et c'est un dommage parce qu'il faut savoir que la Serie A en Italie a beaucoup d'années. Le premier championnat, on l'a eu en 1971 et ce fut Genoa qui l'avait gagné. Donc, c'est quelque chose qui remonte déjà à plus de 40 ans, mais seulement cette année, on a vraiment commencer à parler du foot féminin aussi grâce aux médias. L'année passée, Sky Sport a acheté les droits pour retransmettre un match par semaine. C'était ou le samedi ou le dimanche. Et cela a donné beaucoup de visibilité à tout le système calcio féminin. Les Italiens ont commencé donc à connaître quelques joueuses. Les médias, les journaux ont commencé à écrire des articles. On a connu cet entraîneur qui s'appelle Milena Bartolini, 52 ans, qui est un peu l'emblème du foot féminin en Italie. C'est une ancienne joueuse. Elle jouait en défense centrale et c'est pour ça qu'on aime l'appeler la Franco Baresi des femmes.
Ah, comparaison avec les hommes. Matteo, oui.
Non, mais on peut dire aussi que la fédération a fait des efforts depuis 2015, puisque ils ont demandé aux plus gros clubs d'investir sur les filles depuis 2015.
Oui.
Ça a pas marché des masses quand même.
Hein. Ça a pas marché, mais par exemple la Juve, parce que au départ c'est pas forcément la Juve. La Juve est championne en titre cette saison et l'année dernière c'est la Juve. Donc il y a des choses qui se passent, mais ça part de très loin, quoi. Mais c'est déjà bien de faire ça, parce que la plupart du temps, rappelle-toi, nous à Marseille, on a demandé à l'OM d'avoir un club. Elles sont redescendues, elles vont remonter, mais c'est très compliqué.
Moi, j'ai une question quand même pour Matteo, parce que dans les années 90, début 90, le foot féminin italien avait quand même, je vais pas dire c'est des pas bons mal. Résultats, mais il y avait quand même une partie, il y a eu un quart de finale de Coupe du Monde. Il y a eu deux quarts de finale aussi en championnat d'Europe. À l'époque où c'était pas la FIFA qui gérait l'Italie, avait déjà gagné ce qu'on appelle Mundialito à l'époque, c'était une espèce de Coupe du Monde officieuse. Mmh. Donc comment est-ce que t'expliques que, arrivé, on va dire, à la fin des milieu 90, fin des années 90, ça s'est complètement effondré, alors qu'au départ, c'était peut-être une des nations européennes les plus en avance, il y a 20 ans.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu ce blackout, on peut l'appeler comme ça, à partir des années 2000. Il n'y a eu plus rien à partir vraiment de cette année-là. Et après, à mon avis, tout est lié au fait que tout le système calcio a commencé à entrer en crise. Donc, vous savez, même le foot féminin de reflet payer un peu, disons, les erreurs des hommes. En plus, il faut ajouter que quand on parle de sport féminin en Italie, c'est surtout le volleyball qui est à la une. Donc, beaucoup d'intérêt s'est placé envers cette discipline et un peu oublié, malheureusement, le football italien qui, je répète, cette année, s'est très bien défendu. Ils ont obtenu une qualification historique. Ça, vous l'avez dit, ça faisait 20 ans que les filles ne participaient pas au championnat du monde. Ils ont vraiment donné une sévère raison aux Portugaises qui étaient sur la carte beaucoup plus fort des Italiennes, 3-0, et se sont donc qualifiées. Et c'est vraiment un retour. Et pour l'instant, j'ai regardé avant le ranking du classement FIFA. Bon, on est 15e, mais c'est pas si mal. Mais à mon avis, dans ce championnat du monde, l'Italie pourrait vraiment jouer le rôle de outsider.
Alors,
je l'espère.
Matteo, une chose dans cette équipe d'Italie, c'est sa capitaine. C'est aussi la capitaine de la Juventus. Et c'est vraiment un personnage emblématique à tel point que Saragama, c'est son nom, est même devenue une poupée Barbie.
Oui, en effet, c'est la Saragama, c'est le capitaine de l'équipe nationale, c'est aussi le capitaine de la Juve championne d'Italie, elle a 30 ans, son papa est congolais, sa maman italienne, elle est née à Trieste, et oui, c'est un personnage très recherché au niveau médiatique, car c'est elle l'emblème du foot féminin en Italie en ce moment, et oui, la Mattel, en effet, a construit une poupée Barbie en son honneur, car elle lui a reconnu le fait d'être un personnage très positif et d'être une source d'inspiration pour les jeunes générations féminines. Donc, il faut aussi savoir que Sarah est très engagée contre le racisme et soutient l'intégration à tous les niveaux.
Oui. Naïm, c'est souvent les équipes féminines, il y a aussi une incarnation autour d'une personne ou d'une joueuse
oui, bien sûr,
pour populariser.
Évidemment,
quand on veut populariser.
Vous parliez de Saragama qui en Italie est très symbolique d'abord parce que c'est la capitaine de l'équipe nationale, donc elle incarne un peu cette arrivée du foot féminin dans un pays quand même assez macho, puis elle est d'origine africaine et on connaît le contexte un peu social en Italie, machin, tout ça. Il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve très bien dans cette équipe, c'est qu'il y a des individualités. Il n'y a peut-être pas de championnat. Il n'y a peut-être pas de grande équipe qui brille en Ligue des Champions comme Lyon, comme le Bayern, comme Chelsea. Mais vous avez des vraies individualités. Il y a Bonanza qui joue à la Juve. Il y a Sabatino, moi, que je trouve assez performante avec le Milan AC. Il y a Linari qui joue à l'Atlético Madrid et qui, en plus, ne fait pas de figuration. Donc, est-ce que c'est sur ces filles-là, Matteo, que l'équipe s'articule sur cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est, comme nous en France, on a Amandine Henry, on a le sommet. Est-ce que c'est sur ces filles-là que reposent les ambitions italiennes? Sabatino, Bonanza, Gamma, Linari.
Oui, je suis d'accord. Bon, j'ajoute aussi le gardien qui est très estimé. Elle s'appelle Laura Giuliani. Elle défend les poteaux de la Juve. Et je ne sais pas si vous l'avez nommé, mais il y a Ilaria Bartoli, qui est le capitaine de l'équipe féminine de la Rome.
Et il y a Yara Mauro aussi qui est devant.
Oui. Et donc la Bartoli avec Linari, je l'ai entendu, vous l'avez dit, qui sont un peu l'axe défensif de cette équipe. Donc oui, c'est ça. Mais en général, c'est une équipe très unie. Ça, on l'a remarqué pendant les interviews et tout ça aussi pendant la préparation. Et très soudée. Elles veulent pas vraiment s'arrêter au premier tour, même si le groupe
il est difficile,
n'est pas si facile.
Hein. Avec le Brésil, la Jamaïque et l'Australie.
Le Brésil, on sait que c'est le favori numéro un, mais l'Australie, c'est une équipe qui arrive très bien, dont le classement justement FIFA ne reflète pas du tout les performances physiquement. elles sont hyper costaudes et là ça va être un gros match. Et moi j'ai une autre question pour Matteo. À l'époque on parlait de l'équipe nationale masculine où ça n'allait pas ou machin, on disait il y a un creux générationnel, ce qui était complètement débile puisque toutes les équipes de jeunes gagnaient soit les Euros, soit faisaient des finales de Coupe du Monde de jeunes. Qu'est-ce, alors ça veut dire qu'on travaille bien chez les jeunes en Italie malgré ce qu'on pense, malgré les rumeurs. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la DTN et de la fédération pour les plus jeunes, les filles? Parce que, je veux dire, généralement, ça va de pair, le travail de formation pour les hommes, mais fait aussi pour les filles. C'est dans la même fédération, la même DTN.
Voilà, ils sont en train de faire ce projet. Ils sont en train d'unir les deux niveaux, celui féminin et celui masculin, à Coverciano pour avoir, disons, pour faire en sorte que les filles puissent apprendre aussi des grands personnages qui travaillent à Coverciano. Roberto Mancini, c'est lui... l'entraîneur de l'équipe italienne qui a dit il y a quelques mois, moi je suis prêt à aider aussi le développement du football féminin en Italie parce que le calcio en Italie a besoin aussi des femmes. Moi j'ajoute pas seulement calcio, mais ça c'est personnel. et donc voilà, ils sont en train vraiment, moi je crois qu'on est vraiment à l'année zéro du football féminin italien. Et mais... on espère vraiment de voir quelque chose d'important qui commencera à grandir. Et ce champion du monde tombe vraiment, vraiment au juste moment, au bon moment.
Et ben, c'est ce qu'on verra donc du côté de Valenciennes et ça sera dimanche en début d'après-midi. Merci beaucoup Matteo d'avoir été en direct avec nous. À noter aussi cette victoire de l'Italie. Alors là c'est chez les hommes, chez les U20, hein, les moins de 20 ans, l'Italie qui a battu vaillamment le Mali et le Mali qui s'est bien battu, ouais. les jeunes maliens, mais ils ont terminé le match à 10 et c'est vrai que c'était compliqué de battre l'équipe d'Italie. Le score final 4-2. Merci beaucoup Matteo, à bientôt.
Merci à vous.
Ciao. Un peu de rythme oriental, puisque nous allons nous diriger vers la Turquie où nous attend Olivier Pron. Vous dansez, Olivier Pron?
Ah, je fume la chicha, j'attends vous. Hein. On a les loukoums, on a la chicha.
Et vous savez que la ville de Konya, c'est là où repose le fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. C'est pour ça que je vous demandais.
Mais bien sûr, les derviches tourneurs, la ville du soufisme, voyons.
Vous tournez,
un million d'habitants, et pourtant c'est laid. Mais qu'est-ce que c'est laid?
Bon, c'est l'intérieur de la Turquie, apparemment. Ça ne séduit pas trop Olivier. En tout cas, Olivier, vous n'êtes pas tout seul là-bas, vous accompagnez les Bleus. D'ailleurs, est-ce que les Bleus ont regardé les Bleus, eux, ce soir?
Oui, dites donc. Et pour tout vous dire, même David Finzel a espionné. Il vient de m'envoyer des photos sur WhatsApp pour être sûr que je raconte pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'à la conférence de presse, vous imaginez bien que la question a été posée. Et elle oui. a été posée surtout, d'ailleurs, à Hugo Lloris, qui a dit... au début, il était un peu interloqué. Il se dit, je sais pas trop comment ça va se passer. Et puis finalement, on lui a dit à côté, c'est Raphaël Raymond, l'attaché de presse, l'officier de presse de l'équipe de France, lui a dit, si, c'est prévu pendant le dîner. Et donc, effectivement, ils ont dîné en regardant le match des Bleus, sans doute sur TRT Sport Canly, hein, qui est actuellement allumé dans ma chambre, sous mes yeux. Mais enfin, bon, voilà, on avait les commentaires turcs, mais on avait l'image, les bonnes images de ces Bleus vaillantes.
Oui, des Bleus qui avaient croisé hein, les garçons à Clairefontaine récemment. Exactement. Où elles étaient elles aussi réunies. En tout cas, vous êtes donc au cœur de la Turquie pour suivre cette équipe de France qui va jouer eh bien, pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Alors, ces Bleus, eh bien, on va écouter Olivier Giroud, n'est-ce pas Olivier Pron, parce que vous l'avez écouté tout à l'heure en conférence de presse et à son rythme, à son débit, on comprend qu'il a besoin de vacances.
On est forcément un peu fatigué de cette longue saison, forte en émotion pour certains, et puis il faut encore jouer des matchs de qualif pour la France, mais le fait d'avoir ces vacances en ligne de mire après vont nous permettre de donner un dernier coup de collier important à 200% pour gagner ces deux matchs qui sont très importants. Au-delà de la fatigue, il va falloir aller puiser dans notre force mentale afin de gagner ces deux matchs.
Ça l'a épuisé de remporter la Ligue Europa.
Ouais, bah, il a beaucoup joué cette année.
Non, mais il y a une explication. En fait, cette conférence de presse, elle date de mercredi. Les conférences de presse sont souvent vers 15 ou 16 heures. Et Olivier Giroud, il déteste ça. Il explique très bien que ça le coupe dans sa sieste. Mm-hmm. Alors forcément, bah, il n'est pas très réveillé quand il arrive. Et ça s'entend et ça se voyait aussi.
Bon, en tout cas, cette fin de saison, il se retrouve face à des joueurs turcs en Turquie. La Turquie, pays passionné par le football, on les attend pied ferme, en tout cas, les Bleus champions du monde, j'imagine.
Oui, dans l'ancienne Torku Arena, je vous passe le nouveau nom du stade de Konya, car c'est absolument imprononçable, il y a au moins quatre mots, et je ne m'y entends guère en turc. 42 000 places, un joli petit stade, ma foi. Pour vous situer rapidement Konya, hein, on est au sud d'Ankara, on est au nord-est d'Antalya, à 300 km de la frontière avec la Syrie, on est vraiment au cœur, en plein est de la Turquie, pour cette ville, on l'a dit, des derviches tourneurs, avec l'équipe de Konya Sport, qui joue là-bas, dans ce stade qui a terminé 8e cette saison du championnat turc. Et on signalera pour nos auditeurs africains que joue là-bas Mustapha Yatabaré, le Malien, Abdou Traoré, le Ivoiro-Burkinabé, Morike Fofana, l'Ivoirien, et puis Fallou Diagne, un Sénégalais. Voilà pour la présentation rapide du Konya Sport. En tout cas, les Bleus vont y affronter une Turquie qu'on n'a pas beaucoup vue ces dernières années au premier plan. Hein. La Turquie a raté les 4 dernières Coupes du Monde. Ça n'est pas rien. La Turquie a été éliminée dès le premier tour de l'Euro 2016. Mais la Turquie, petit à petit, est en train de se refaire une santé parce qu'elle a récupéré son sélectionneur historique, celui de l'épopée de la Coupe du Monde 2002. Ils avaient terminé 3e. Senol Gounes, qui était entraîneur il y a quelques semaines encore du Beşiktaş. Il vient de revenir et depuis, ils ont enchaîné 4 victoires. 2 comme les Bleus en mars dans les éliminatoires, dans les qualifications pour l'Euro 2020. Et puis 2 parce qu'ils viennent de jouer 2 matchs amicaux face à la Grèce. Ils ont gagné 2-1 la semaine dernière et dimanche 2-0 face à l'Ouzbékistan.
Marc, comment vous voyez ce match qui attend les Bleus? Effectivement, c'est en fin de saison, ce sont les fameux matchs de juin. En même temps, ce sont les matchs pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Didier Deschamps va d'autant plus devoir trouver la clé du système, c'est qu'il n'aura pas N'Golo Kanté.
C'est un petit peu des matchs pièges parce que c'est vrai que la plupart des joueurs français sont un petit peu fatigués. Et c'est le match par excellence, on veut faire tomber la France et le champion du monde. Donc ils ont intérêt à être à 100%, parce qu'autrement, sur ce genre de match, 80-60%, on a du mal à passer. Ou on peut se faire mal. Donc ça va être très difficile à Deschamps de choisir les bons joueurs. Quand on voit le match d'Mbappé, alors certes qui est sorti à la mi-temps, mais qui n'est pas dans le bon tempo, qui n'est pas dans le bon rythme, parce que c'est la fin de saison de Paris, est-ce qu'il est un petit peu fatigué, est-ce qu'il y a plein de choses
perturbé,
il faut vraiment qu'il choisisse ses hommes, parce que ça, je pense que ça va être un combat, il les attend de pied ferme, vraiment.
Ouais. Naïm ?
Je suis moins convaincu que sur la qualité de la Turquie que Marc. Disons que c'est le seul match, compte tenu de la faiblesse des éliminatoires, qui peut poser problème, parce que c'est la Turquie Turquie. Si on gagne ce match-là, on est qualifié et puis basta cosi, c'est terminé. Sur le niveau de la Turquie, faut quand même voir un truc, c'est que le championnat est quand même nettement moins fort qu'il y a quelques années. Les clubs brillent moins en Europe et aujourd'hui, les jeunes espoirs turcs souvent prennent la nationalité allemande. Donc c'est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à se régénérer, à trouver le souffle qu'il avait au début des années 2000. Ça va être un combat. Plus, à mon avis, parce qu'on veut faire tomber le champion du monde que parce que footballistiquement, on a les armes. Mais quand on voit la qualité du bon touche de l'équipe de France, quand on sait un petit peu comment Deschamps gère les matchs du mois de juin, parce qu'il y a eu quelques ratés, notamment il y a 2-3 ans face à l'Albanie, moi, je suis absolument pas inquiet.
Olivier, vous êtes inquiet pour les Bleus sans N'Golo Kanté?
Ah non, ça ne me ressemblerait pas si je pensais que j'étais inquiet. Non, sans N'Golo Kanté, la question lui a été posée à Didier Deschamps. Il a dit, j'ai personne dans ce registre-là, mais j'ai 22 joueurs encore à disposition et je suis tout à fait capable de faire une équipe extrêmement compétitive, même sans un joueur ayant les caractéristiques de N'Golo Kanté.
Quand t'as Tanguy Ndombele, voilà. Quand t'as Sissoko, quand tu peux descendre Matuidi, t'étais pas ennuyé, quoi.
Et puis surtout, il faut voir ce qu'il y a en face. Il y a quand même pas une star en face.
Il y a des joueurs.
Voilà, il y a Hakan Kalanoglu, le joueur du Milan AC. Il y a Celic, qui a été une pièce maîtresse du LOSC dans la place de dauphin dans le championnat de Ligue 1. Il y a Yılmaz, évidemment, l'attaquant du Beşiktaş. Mais enfin, la plupart de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de ces gens-là. Et voilà, c'est une équipe en devenir. C'est une équipe qui sera dangereuse parce qu'elle est chez elle. Vous l'avez très bien dit. Même Marc Libra l'a dit, c'est dire. Et donc voilà, ces matchs-là en Turquie sont toujours particuliers. Ça n'est pas tout à fait anodin. Si on ne joue pas à Istanbul, on vient aussi à l'intérieur du pays. Ils ont joué à Antalya dimanche dernier. Ils jouent à Konya parce qu'ils viennent rechercher un peu de passion. On est juste après le Ramadan.
C'est le match piège.
Quand on est
il faut voir un truc. C'est simplement. Il y a une telle communauté turque en France. Que tu quand ces pays-là jouent la France, il y a un surplus, il y a un truc qui c'est comme les Portugais, c'est comme les Polonais, tu joues la France, bah t'as tellement une diaspora énorme là-bas que tu quand ils jouent chez nous, ils sont quasiment à domicile.
Oui, puis on est en fin de Ramadan et on l'a vu. Alors ce n'était pas nous qui étions accueillis tels des messies hier à l'aéroport, mais je peux vous dire qu'il y avait un monde, j'avais rarement vu ça. Et en fait, c'était les familles de Konya qui venaient accueillir les petits enfants, les enfants, les fils qui revenaient après un mois de Ramadan. C'était la fête un peu hier. Et c'est vrai que je pense que ce sera sans doute une grosse fête demain au stade face aux champions du monde.
Eh bien, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on suivra, nous, d'ici, de France. Et vous serez donc avec les Bleus en Turquie. Et ensuite, vous allez les suivre jusqu'en Andorre, plus en altitude, Olivier, c'est ça?
Un joli petit port de pêche. On va passer de 30 degrés à 12, nous annonce-t-on, du côté d'Andorre. Après un voyage qui va durer 15 heures, on passe d'un bout de l'Europe, au début de l'Asie, à la partie la plus ouest, pratiquement, la plus occidentale de l'Europe.
Merci beaucoup en tout cas Olivier d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International et bonne nuit, bon match, bonne soirée.
Pas d'excès.
On va essayer de faire tout ça.
Faire attention là-bas.
Pas d'excès Olivier.
Oui oui Marc, je prends note. Non pas, c'est pas le genre de ville où on fait des excès, si vous voyez ce que je veux dire.
On parlait de remplacement de N'Golo Kanté qui est absent. Eh bien au Brésil, vous le savez, Neymar ne disputera pas la Copa América, non seulement parce qu'il a des problèmes personnels, mais aussi parce qu'il s'est blessé. Il a mis sur les réseaux sociaux sa cheville et c'est vrai qu'on a vu qu'il a un sacré œuf de pigeon sur la cheville. Et c'est Willian, le joueur de Chelsea qui remplacera Neymar dans l'équipe de Tite. Pour terminer, messieurs, je voulais vous demander un petit commentaire sur ce transfert qui était dans les rumeurs et qui n'en est plus puisque c'est devenu officiel. Eden Hazard et le tout nouveau Merengue, l'international belge qui brillait depuis 7 ans à Chelsea, justement avec les Blues, vient de signer au Real Madrid et il y jouera à la Casablanca jusqu'en 2024, du moins le dit son contrat. Est-ce que ça va élever le niveau du Real?
Oui, parce qu'Eden Hazard est une star mondiale, Eden Hazard est un très grand joueur, et Eden Hazard surtout veut y aller depuis plusieurs saisons, ça fait au moins 2-3 ans à chaque année qu'il dit j'attends le Real, maintenant qu'il y est, il va charger à lui
Zidane
de prouver.
Zidane le voulait,
non mais c'est un super joueur de foot, il va à 2000 à l'heure, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, il est très ambitieux, et je pense qu'en plus avec un joueur comme Zidane, avec des garçons autour de lui, francophones comme Benzema, comme Varane, et peut-être comme d'autres prochainement, il va s'épanouir, donc c'est un très bon transfert.
Marc,
c'est la bonne pioche depuis 2009-2010, enfin qu'il est dans notre championnat de Ligue 1. Oui. Il n'a cessé de progresser. La plupart du temps, chaque fois qu'il parle, il dit moi j'aimerais faire ça, puis il le fait. Il a été très réglo de pas lâcher avant parce que c'est vrai que depuis Chelsea, il avait fait des zombies comme lui Naïm, et puis il a toujours respecté. Et bravo à lui. En tout cas, là c'est encore une fois, je pense qu'il peut carrément exploser parce que on va le voir sous un autre angle, malgré que ça soit un joueur extraordinaire. Et là. Il joue à Madrid. C'est-à-dire, ce qu'il faisait sous maillot
déjà
de Chelsea, il fait pareil, ça sera 10 fois plus impressionnant.
Et quand il le fait sous le maillot de l'équipe de Belgique aussi, on admire.
Et là, il redevient compétitif pour le Ballon d'Or. Parce que je pense que le fait d'être à Chelsea, malheureusement pour lui, ça le tire un peu vers le bas sur les dernières saisons. Là, il arrive dans un club où les ambitions, où le niveau et où les objectifs sont souvent atteints et ça va de pair avec son talent. Donc là, il redevient compétitif pour le Ballon d'Or.
Il était un petit peu sur la fin de saison, ça n'a pas été, enfin, sur cette année, il n'a pas fait le peu de choses qu'il peut faire, il le fait très bien, il est très impressionnant. Donc bravo à lui et maintenant j'y souhaite que du bonheur et je me languis de voir jouer maintenant.
Dans l'effectif pour faire ce beau mariage avec lui, qui est-ce que vous pensez que l'effectif qui est actuellement au Real Madrid suffit ou il va falloir le valoriser avec une ou deux recrues?
Il y a un milieu qui doit arriver, alors que ce soit Pogba, que ce soit Eriksen ou que ce soit un autre, ça paraît évident qu'il y a un milieu, surtout côté gauche, qui va arriver. Une doubleur pour Marcelo côté gauche. Maintenant, quand vous avez Benzema, Jovic, que vous avez Vinicius, que vous avez Vasquez, que vous avez Asensio, que vous avez prolongé Kroos et que vous avez, Isco risque de partir et que vous avez Modric, vous avez quand même une équipe qui est taillée pour gagner la Ligue des Champions. Et Zidane, c'est son objectif, regagner la Liga et surtout
gagner la Liga, parce qu'il l'a moins gagné que le, ce qu'il aurait voulu, mais surtout regagner la Ligue des Champions.
Bon, et ben ça sera des objectifs.
Très grosse équipe, mine de rien. Gros secteur offensif.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir veillé ici.
Grand plaisir. On a vu du grand football.
Merci à David Finzel, hein, qui m'a aidé à préparer cette émission, évidemment. Et puis, Laurent Salerno, qui était à la réalisation. On vous dit à lundi.